Voici une question dont la réponse va parler spécialement au cœur des incroyants. Quelle est la cause de l'incrédulité? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui pourrait transformer des vies aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On commence enfin le livre des Actes. Une des raisons pourquoi j'aime tant ce livre, c'est qu'il nous apprend à connaître l'apôtre Paul, qui est pour moi, ainsi que pour plusieurs, une sorte de mentor, même s'il est décédé il y a longtemps. Sa vie nous enseigne tellement dans bien des sujets. Maintenant, voici les premières questions que nous allons poser à ce livre riche en instructions pour nous. Quelles sont les caractéristiques du livre des Actes? Quels sont les buts du livre des Actes? De quelle manière est-ce que le Seigneur est actif sur cette terre, depuis qu'il est monté au ciel? Quel est le problème réel des non-croyants? Est-ce un problème de cœur ou un problème d'intellect? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert le grand livre de Dieu et il est prêt à nous enseigner ce qu'il dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, on est dans la joie. On est dans l'attente que tu vas nous enseigner des choses extraordinaires aujourd'hui dans ce beau livre des Actes. Viens nous instruire, dispose nos cœurs, qu'on puisse être attentif à tout ce que tu vas nous dire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous entreprenons le livre des Actes. À la dernière émission, nous avons terminé le livre de Ruth en notant qu'un rédempteur devait avoir 5 caractéristiques. Premièrement, être un parent proche. Deuxièmement, vouloir exercer son droit de rachat. Troisièmement, être capable d'exercer son droit de rachat. Et quatrièmement, être lui-même. Ainsi que cinquièmement, avoir la somme pour le rachat en main. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre proche parent en prenant une forme humaine. C'est volontairement qu'il a subi la crucifixion. Il était capable d'exercer son droit de rachat. En fait, la Bible dit qu'il sauve parfaitement ceux qui viennent à lui. Il était sans péché, donc n'avait pas à mourir pour ses propres péchés. Il était libre, et c'est son propre corps qui a servi à payer notre rançon. Maintenant, nous étudierons le livre des Actes au cours des 35 prochaines émissions. Ce livre est riche, et nous ne voulons pas aller trop vite. Certains ont appelé le livre des Actes le cinquième évangile, car c'est la suite de l'évangile selon Luc. Les archéologues et les historiens ont remarqué que Luc était précis dans ses renseignements. Donc, il est un historien crédible. Ce livre fait un lien entre les évangiles et les épîtres. Si nous n'avions pas ce livre historique, il y aurait un vide dans la Bible. Le dernier fer apporté dans chaque évangile se retrouve dans le premier chapitre du livre des Actes. Nous avons la résurrection dans Matthieu, l'ascension dans Marc, la promesse du Saint-Esprit dans Luc et le retour de Jésus-Christ dans l'évangile selon Jean. C'est comme si les 4 évangiles passaient par un entonnoir pour se poursuivre dans le livre des Actes. La grande mission d'évangéliser et de faire des disciples que nous retrouvons dans les 4 évangiles est aussi de nouveau répétée dans le premier chapitre des Actes. Le livre semble être une échelle sur laquelle sont accrochées les épîtres. Ce serait intéressant d'en faire une lecture harmonisée, lisant le livre des Actes en l'interrompant au moment où une épître fut rédigée pour lire celle-ci. C'est une lecture possible parce que le livre des Actes raconte la fondation des églises à laquelle sont destinées des épîtres. Le livre des Actes raconte la naissance de l'Église et ses débuts. Le livre de la Genèse raconte l'origine de l'univers et le livre des Actes, l'origine du corps spirituel qu'est l'Église. Nous trouvons le thème du livre des Actes au verset 8 du premier chapitre. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le livre se divise naturellement selon ce verset clé. Les 7 premiers chapitres traitent du travail à Jérusalem accompli par le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit en utilisant les apôtres. Les chapitres 8 à 12 racontent l'œuvre de Jésus-Christ dans la Judée et la Samarie, toujours faite par le Saint-Esprit en utilisant les apôtres. Le reste du livre traite de l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde entier. Le livre des Actes se termine soudainement au milieu de l'action. Paul est emprisonné à Rome, gardé dans une maison louée en attendant son procès. Ce n'est pas une fin qui répond à toutes les questions. Il en est ainsi parce que l'histoire de l'Église se poursuit toujours. Nous recevons des lettres et des courriels de nos auditeurs qui affirment trouver notre enseignement facile à comprendre. C'est ainsi parce que nous avons préféré une approche historique et biblique du sujet plutôt qu'une approche philosophique appuyée d'arguments complexes. Nous sommes conscients que de nombreux auditeurs n'ont jamais lu la Bible et nous en tenons compte. Voici quelques caractéristiques du livre des Actes. Premièrement, l'importance du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a quitté ses disciples. Il est retourné auprès du Père, et cela est raconté au premier chapitre du livre. Cependant, le Seigneur Jésus travaille toujours. Il a simplement changé de place. Lorsqu'il était sur terre, il avait établi sa permanence à Capernaum. Maintenant, elle est à la droite du Père. Le Seigneur Jésus accomplit toujours un travail important, mais à partir du ciel. Deuxièmement, l'importance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Cette promesse est répétée à 4 reprises dans l'Évangile de Jean. Jean chapitre 1 verset 33, chapitre 7 verset 37 à 39, chapitre 14 verset 16 et 17, ainsi que l'Évangile de Jean chapitre 20 verset 22. La promesse est aussi annoncée dans le livre des Actes, chapitre 1 verset 8. Nous vivons dans l'âge du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans les croyants. Troisièmement, la puissance de l'Église. L'Église manifeste une puissance, et c'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne remarquons pas une puissance aussi intense dans nos églises et nos assemblées aujourd'hui. Le Saint-Esprit est toujours actif, et cela se voit lorsque nous réunions, honorons et glorifions le Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, l'importance de l'Église, visible et invisible. L'Église est une nouvelle institution dont nous voyons la naissance dans le livre des Actes. Cinquièmement, l'importance des places. L'action du livre débute à Jérusalem et se termine à Rome. Les historiens et les archéologues ont remarqué que toutes les villes mentionnées dans la Bible existent ou ont déjà existé. Sixièmement, l'importance des personnes. Luc mentionne 110 personnes par leur nom, sans compter les références aux foules nombreuses. Il devait y avoir quelques millions de croyants à la fin du premier siècle. L'Église a connu une croissance phénoménale pendant les 3 premiers siècles. Tel qu'annoncé par le Seigneur, cette croissance s'est ralentie. Septièmement, l'importance de la résurrection. La résurrection est le thème central des prédications du livre des Actes. Dans de nombreuses églises, les pasteurs ou les anciens prêchent sur la résurrection une seule fois par année, à Pâques. Cependant, dans la jeune église naissante, la résurrection était au cœur de la prédication. On ne prêchait pas sans mentionner la résurrection. Ce fut le thème de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Il a dit ce qui se produisait ce jour-là était dû au fait que le Seigneur Jésus-Christ était maintenant au ciel à la droite du Père et qu'il avait envoyé l'Esprit Saint dans le monde. Cela n'aurait pu se produire sans la résurrection. La résurrection était aussi au cœur de l'enseignement de l'apôtre Paul. Quelques prédicateurs ou pasteurs ont un dada, c'est-à-dire un thème ou une idée favorite sur laquelle ils prêchent la plupart du temps. Pour certains, c'est la fin des temps. Pour d'autres, la création ou le conflit Bible et science. D'autres font de la lutte contre le modernisme, leur cheval de bataille. Si vous voulez un dada à tout prix, puis-je vous recommander la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Dans l'Église primitive, chaque dimanche était Pâques, puisqu'on y prêchait la résurrection. Partout, la résurrection était proclamée. Huitièmement, le rôle majeur de Pierre dans la première partie du livre est celui de Paul dans la deuxième partie. Le livre ne parle presque pas des autres apôtres. Certains ne sont même pas mentionnés. Dieu avait ses raisons, j'en suis certain, pour mettre l'accent sur le ministère de ces deux hommes. De plus, il y avait une raison humaine. Luc devait connaître davantage le ministère de ces deux hommes. Il accompagna Paul dans ses voyages. Certains pensent qu'il y avait un désaccord entre Pierre et Paul. Cependant, je pense que Pierre et Paul se sont rencontrés souvent et qu'ils ont eu de nombreuses conversations. Plusieurs se demandent quel est le meilleur titre pour ce livre. Les Actes des apôtres est utilisé couramment dans des traductions réputées de la Bible. Quelqu'un a suggéré « Les actes du Seigneur montés au ciel et glorifiés ». J'en ai un à suggérer aussi, mais il est précis et un peu long. Mais quand même, je vous le suggère. Le Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre par le Saint-Esprit au moyen des apôtres. Jusqu'ici, nous avons vu un des buts essentiels du livre des Actes. Le livre démontre que la formation et la croissance de l'Église est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Celui-ci est assis à la droite de Dieu le Père, et il dirige les opérations de cette position céleste. Il le fait par le Saint-Esprit qui, lui, dirige les apôtres dans leur mission et leur donne la puissance nécessaire pour l'accomplir, accomplir cette immense mission. Le but du livre, ou les buts du livre, devrais-je dire, de celui des Actes. Alors il y avait d'autres besoins. Il était nécessaire d'avoir de l'information fiable et crédible au sujet des activités des principaux apôtres, soit Pierre, Jean et Paul, ainsi que de Jacques, le frère de Jésus. Il était important de démontrer que l'ensemble du christianisme faisait partie du même mouvement, que les croyants, soit juifs, samaritains, grecs et prosélytes, c'est-à-dire nouveaux convertis, de d'autres nations ou d'anciens disciples de Jean-Baptiste. Il était aussi nécessaire de démontrer que l'apôtre Paul n'avait pas trahi sa propre nation, mais que la proclamation de l'Évangile chez les païens faisait partie du plan de Dieu, et qu'il l'a attesté par des signes et des miracles. Finalement, il fallait établir que Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Hébreux, chapitre 2, verset 4. Donc, cela démontrait que le christianisme venait de Dieu et qu'il était connecté à l'œuvre du Seigneur Jésus, ressuscité et monté au ciel. Le livre des Actes raconte une grande œuvre missionnaire, soit les 30 premières années de l'Église. Nous avons un récit inspiré, donc libre d'erreur. Nous y trouvons aussi le contexte historique de 10 épîtres. Vous avez 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Romains, Colossiens, Philémon, Éphésiens et Philippiens. Ce livre cadre très bien avec le reste de la Bible. Nous y trouvons des explications de certains versets de l'Ancien Testament qui est souvent cité, surtout dans certains discours. De plus, c'est la suite des évangiles après l'ascension du Seigneur Jésus. Le livre décrit l'accomplissement du plan de Dieu. Les épîtres, qui ont un caractère didactique, c'est-à-dire qu'elles enseignent des vérités, sont souvent adressés à des églises et des communautés chrétiennes mentionnées dans le livre des Actes. Maintenant, débutons l'étude du texte. nous ne verrons que quelques versets aujourd'hui, mais nous terminerons le chapitre à la prochaine émission. Les 7 premiers chapitres racontent l'œuvre du Seigneur Jésus à Jérusalem. Le premier chapitre contient une brève introduction, un résumé des 40 jours de Jésus sur la terre après la résurrection. Ensuite, il monte au ciel et promet de revenir. Les apôtres attendent la venue de l'Esprit et choisissent un remplaçant pour Judas. Chers amis, débutons la lecture du livre des Actes, chapitre 1, versets 1 et 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le Seigneur Jésus est toujours actif. Le premier livre est l'Évangile selon Luc, qui fut aussi adressé à Théophile. Ce nom signifie « amant de Dieu ». Ce n'est pas n'importe qui aime Dieu, à qui Luc s'adresse. Luc connaissait un dénommé Théophile qui portait bien son nom puisqu'il aimait Dieu. Le premier livre parle de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, et le livre des Actes raconte ce que Jésus continue de faire et d'enseigner. Jésus poursuit toujours son œuvre aujourd'hui, et il en sera ainsi jusqu'à l'enlèvement de son Église. Il en prend toujours soin. Le deuxième verset indique que le Seigneur Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Le fait que Jésus soit monté au ciel ne signifie pas qu'il n'est plus actif et qu'il n'enseigne plus. À partir de la droite de Dieu, le Seigneur travaille toujours, mais par le Saint-Esprit. Nous pouvons comparer cela à ce qui se passe dans la hiérarchie militaire. Les ordres passent d'un officier à un autre soldat. Ainsi, le Seigneur Jésus travaille par le Saint-Esprit qui, lui, opère par les apôtres et par les croyants. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le Seigneur est apparu vivant après sa mort à la croix. Il le prouva en faisant de nombreuses apparitions pendant 40 jours. 10 de ces apparitions sont rapportées dans les évangiles. Les 40 jours de ministère du Seigneur Jésus après sa résurrection ont eu plus d'impact sur la vie des chrétiens que le ministère de 3 ans raconté dans les évangiles. L'apôtre Paul a écrit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Vous et moi ne connaissons pas le Seigneur qui a marché sur la terre, il y a 2000 ans de cela. Nous le connaissons comme celui qui est dans la gloire et qui est à la droite du Père Céleste présentement. Il existe. Combien souvent est-ce que l'Église perd de vue cette réalité? Jésus est vivant. L'incrédulité est un problème de cœur et non d'intellect. Le problème des incroyants n'est pas le manque de preuves de la résurrection, mais c'est l'incrédulité de leur cœur. Les faits sont là et ils sont disponibles. Y a-t-il quelqu'un qui doute de la réalité de la bataille de Waterloo? Je crois que Napoléon a vécu et qu'il a combattu à Waterloo. Mais j'ai très peu de preuves de cela. Cependant, il y a beaucoup plus de preuves de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus que la bataille de Waterloo. Cependant, il y a des personnes qui refusent de croire à la résurrection. Quel est le problème? Le problème est dans le cœur de l'incroyant. L'homme tend naturellement à fuir Dieu comme Adam l'a fait. L'homme rejette Dieu aujourd'hui. Si vous êtes un non-croyant, le problème est au niveau du cœur. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est montré vivant à plusieurs reprises. Si vous voulez connaître la vérité, cela est possible. Mais le voulez-vous vraiment? Le problème n'en est pas un intellectuel, mais c'est un problème de volonté. J'aimerais faire une remarque au sujet de la résurrection. il y a un verset qui est souvent mal interprété. Celui de Jean 12, verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Comment est-ce que Jésus fut élevé de la terre? C'est par la résurrection, mes amis. Il fut ressuscité d'entre les morts. C'est ce que dit ce verset. Qu'importe ce que vous dites ou pensez du Seigneur Jésus, qu'importe comment bon vous le trouvez, le point important est sa résurrection d'entre les morts. Il est ressuscité. La raison pour laquelle peu de personnes sont attirées au Seigneur Jésus, c'est que nous négligeons de prêcher le Christ ressuscité. Pourtant, c'est un thème majeur du livre des Actes. Et si aujourd'hui, nous venons jusqu'à vous par l'intermédiaire de ces émissions, c'est parce que nous croyons que Jésus est vivant et qu'il peut encore accomplir parfaitement son œuvre dans votre vie. Si vous le lui permettez, il frappe à la porte de votre cœur. Car chaque fois que vous entendez l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est comme si c'était le Seigneur lui-même qui venait vous visiter, afin que vous puissiez le rencontrer personnellement. Lorsque vous rejetez ce message, c'est comme si vous le rejetiez lui-même, personnellement. Écoutez ce texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 37. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voyez-vous cette grande décision qui est placée devant vous? Que faire de la personne de Christ, qui est vivante, ressuscitée, et qui vient vers vous par l'intermédiaire maintenant de ses messagers et de son message? Le recevoir, c'est avoir la vie éternelle. Le rejeter, c'est la perdition éternelle. Chers amis, je vous invite à le recevoir personnellement dans votre vie. Et par le fait même, vous pourrez vivre le livre des Actes chez vous, avec un Jésus vivant, ressuscité, en train d'accomplir parfaitement son œuvre à travers vous. Parmi les vôtres, là, il pourra vous enseigner et vous animer par sa présence, par la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Chers amis, prochaine émission, Actes chapitre 1er, versets 3 à 26.
Merci, Régent. Une chose qui m'épate dans la leçon d'aujourd'hui, c'est le fait que le Seigneur Jésus est toujours actif de nos jours. Il continue à nous enseigner. Il travaille encore, mais par le Saint-Esprit. Il opère toujours de grandes choses sur cette terre par les croyants en qui habite le Saint-Esprit. Je dois vous dire qu'il faut avoir reçu le Saint-Esprit pour attester que c'est bien vrai. D'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, des versets 12 à 14, Jésus nous dit que celui qui croyait en lui ferait aussi les œuvres qu'il avait faites et qu'il en ferait de plus grandes, parce qu'il s'en allait au Père. Et il a ajouté que tout ce qu'on demanderait en son nom, il le ferait, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il a terminé en disant que si on demandait quelque chose en son nom, il le ferait. Je disais donc qu'il fallait avoir reçu le Saint-Esprit pour attester que tout cela était bien vrai. Pour ma part, dès que j'ai reçu le Saint-Esprit à ma conversion, tout a changé pour moi. En temps normal, j'aurais eu besoin de suivre une thérapie pour cesser de consommer de la drogue, mais le seul fait d'avoir l'Esprit de Dieu en moi m'a donné un désir et une force pour cesser de consommer cette drogue sans même avoir recours aux moyens des hommes. Je ne dis pas que ces moyens ne sont pas bons, mais c'est beaucoup plus facile, croyez-moi, de le faire par la puissance de Dieu en nous. En plus, par l'Esprit Saint, je peux aller avec assurance devant de purs étrangers et leur annoncer le plan de Dieu pour leur salut. Et même parfois, des gens qui normalement pourraient m'envoyer promener gardent le silence et écoutent ce que Dieu a à leur dire par ma bouche, simplement parce que le Saint-Esprit les convainc de le faire sans même qu'ils ne le réalisent. À d'autres moments, je m'installe pour composer un cantique de louange pour le Seigneur et je sais pertinemment que je serais incapable par moi-même de composer des paroles et de la musique semblables. Et je dis ça sans prétention, puisque c'est le Saint-Esprit qui fait le travail par moi. Gloire à Dieu! Et je pourrais donner de multiples exemples dans ma vie et dans la vie d'autres croyants qui démontrent que le Seigneur est toujours à l'œuvre de nos jours par la puissance du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Mon ami, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il faut premièrement que tu reçoives Jésus comme ton Sauveur. Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est Dieu fait homme, qu'il est venu sur cette terre dans le but d'être le sacrifice ultime pour toi? Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 2, il est écrit que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et Paul nous dit dans son Épître aux Hébreux, au 9e chapitre, au verset 27, que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Mon ami, Jésus a porté tes péchés sur la croix. Il a pensé à toi. Il est mort sur cette croix à cause de toi, à cause de moi. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Et maintenant, il t'offre gratuitement le don de la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu auras cette vie éternelle dès maintenant. Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.